La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Bonjour, bienvenue pour la 2e émission. Si on en parlait, mais pas que. Bonjour Sébastien, peux-tu nous rappeler pour les auditeurs les passages de l'émission?
Bonjour Pascal. Donc l'émission passera donc tous les premiers mardis du mois à midi et les derniers vendredis du mois à midi sur Radio Tintouin 101.8 ou sur radiotintouin.org.
Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, Sébastien?
Donc, nous allons parler de l'association le GEM Phoenix, qui veut dire GEM Groupe d'entraide mutuelle, qui est donc une association destinée aux personnes qui ont des séquelles suite à un traumatisme crânien.
Suivi de l'interview de Lancelot. En deuxième partie, on va parler de tes astuces, Sébastien. La dernière fois, on a parlé sur l'argent. Alors, nos auditeurs, ils ont bien compris l'histoire sur les billets. Mais est-ce que tu peux nous rappeler sur les pièces? Aujourd'hui, on va prendre la pièce de 1 euro et 2 euros. Est-ce que tu peux nous apprendre comment les reconnaître?
Alors, pour reconnaître les pièces, il suffit de gratter la tranche de la pièce avec son ongle. La pièce de 1 euro est donc repérée avec des marques sur le tour qui représentent comme une lime à ongles, une partie lisse et une lime à ongles à nouveau. Et la pièce de 2 euros, c'est une lime à ongles qui fait tout le long. Il n'y a pas la partie lisse.
Très bien. En troisième partie, tu nous parleras de ta recette cuisine. Et ensuite, moi, je vais te donner ma petite astuce sur la cuisine. Après, on finira sur l'astuce santé. On va parler du diabète. T'as du diabète, Sébastien?
Oui, moi je suis atteint d'un diabète dû aux médicaments que je prends.
Voilà. Bon, on va commencer un petit peu en musique. À tout à l'heure.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute, il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul je résiste, ensemble on craint rien. On progresse, on grandit et putain on rigole bien. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin.
Bon, Sébastien, peux-tu parler de ton association GEM Phoenix, s'il te plaît?
Alors, le GEM Phoenix, GEM qui veut dire donc groupe d'entraide mutuelle, donc une association destinée à toutes les personnes qui ont des séquelles suite à un traumatisme crânien. Et nous y faisons plein de choses. Pour nous distraire, on fait plein de jeux. Par exemple, nous avons un jeu de cartes en braille. Nous avons aussi un jeu de domino qui est en relief pour que les personnes, malgré la cécité, puissent jouer. On peut jouer des fois au Monopoly ou au Domino, enfin, ou à la Bonne Paye, et dans ces cas-là, ou au Yams. Et dans ces cas-là, par rapport à la société, les gens me disent quel score j'ai fait ou quel genre de questions je dois répondre.
Sébastien, tu m'as dit aussi que vous faites quelques sorties, tu peux m'en décrire quelques-unes?
Bien sûr. Donc, nous faisons des sorties dans les parcs, aux eaux de Beauval, par exemple, dans des parcs où on peut aller se promener. Nous avons aussi été faire du bateau, du petit bateau sur le canal, du vélo sur rail. Enfin, nous faisons plein de petites sorties comme ça. Nous faisons aussi des fois les sorties en restaurant. Et c'est vraiment très agréable parce que ça, par rapport au fait que si on restait chez nous, on ne peut rien faire, on n'aurait plus de vie sociale. Du coup, là, on retrouve une vie sociale, des activités qui sont très plaisantes, qui sont accessibles à tous.
Et tu me parles de visite de zoo, mais pour toi, ça t'intéresse parce que...
Moi, j'ai perdu la vue et l'odorat, donc c'est moyennement intéressant. Mais j'ai toujours mes amis qui me décrivent tout. Qui me décrivent quel genre d'animal c'est, s'il a des mimiques, s'il fait quelque chose en particulier, s'il saute, s'il se cache, s'il se rapproche pour venir nous voir. J'ai mes amis de l'association qui me décrivent tout ce qui se passe.
D'accord. Du coup, cette activité d'aller voir un zoo, ça te plaît?
C'est pas inintéressant, ça reste. Faut rester un petit peu ouvert à la culture, à toutes sortes de choses. Donc après, quand il y a des gens comme ça qui nous décrivent tout, qui nous expliquent tout, ça, on arrive à se faire des images dans la tête et à comprendre ce qui se passe.
Bien, Sébastien. On va suivre sur la rubrique cuisine, mais on passe à une petite musique avant.
D'accord.
Musique.
101.8 FM, Radio Tintouin, la radio qui fait du bien.
Bonjour Lancelot.
Bonjour.
Alors, je peux te tutoyer.
C'est faisable, oui.
Alors, tu es coach sportif.
Tout à fait, oui.
Du coup, tu interviens tous les lundis dans une structure pour handicap et tu proposes des activités.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous développer les activités que tu proposes?
C'est des activités qui sont orientées sur la base de ludique, de jeu, de plaisir. Ça a pour but de travailler tout ce qui est aspect psychomoteur. Donc, on entend par là développement de la coordination, que ce soit haut ou bas du corps, développement de la qualité d'équilibre, réapprentissage de la gestion coordination œil-main, anticipation et apprendre à être en réaction à ce qui peut se passer. Donc, donner des panels d'outils et d'éléments physiques qui peuvent permettre de réagir à la vie de tous les jours. Ça permet aussi de retravailler sur tout ce qui est canal de traitement de l'information. Donc, prendre une information, agir dessus. Et donc, ce qui est ça qui est intéressant, c'est que comme on a un large public avec plusieurs particularités, le canal fonctionne différemment. Donc, ça veut dire que le stimulus doit être différent. Donc, ça peut aller de la balle avec un gros à l'intérieur pour les personnes malvoyantes. Ça peut aller de la texture à la balle pour d'autres personnes qui ont besoin de texturer pour se repérer. Ça peut être des stimulus auditifs avec différents signaux. Et tout ça sur fond de jeu, d'échange et de collaboration, parce que c'est quand même l'essence même de l'activité physique. À la base, c'est quand même prendre du plaisir, donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus.
Et tes groupes, en fait, comme Sébastien, qui est malvoyant, c'est que des personnes malvoyantes ou en fauteuil roulant, ou c'est tout confondu?
Il y a tout confondu. Il y a, comme Sébastien, de la personne malvoyante.
Ouais.
Il y a des personnes en déficit d'équilibre.
Ouais.
Donc, perte de la locomotion. Il peut y avoir, bon, c'est pas le cas là où j'interviens, donc à GM Phoenix, mais il y a des personnes qui peuvent être atteintes de troubles de la parole.
D'accord.
Troubles de la concentration ou de la perception des émotions ou autres.
D'accord.
Donc ça peut en générer pas mal de frustration, ce genre d'éléments. Mais non, il y a de l'âge. Ce qu'on peut le plus rencontrer dans là où j'interviens, c'est surtout troubles de l'équilibre.
D'accord.
Des personnes malvoyantes. Et trouble de la concentration.
D'accord.
C'est pour ça que c'est intéressant de travailler aussi en ce qu'on appelle, alors c'est un bien grand mot pour pas grand chose, mais en double tâche cognitive, c'est-à-dire qu'on l'avait fait travailler avec deux informations à prendre en compte. Exemple type, hein, une activité à réaliser, je ne vais pas sauter par-dessus une haie, mais une information de couleur à restituer.
D'accord.
Ou un jeu de calcul à donner, ou une information d'un pays à donner, pour en fait perpétuellement, stimuler cette concentration-là pour vraiment avoir un focus là-dessus.
Et sans les mettre en échec, tu fais comment? Parce que...
Alors, c'est surtout là où j'ai le côté préparateur physique qui revient, parce qu'il faut les mettre en échec.
Ouais.
Faut les mettre en échec, mais il y a échec et échec. Faut mettre en difficulté pour générer de l'apprentissage. Faut qu'il y ait de la répétition pour qu'il y ait apprentissage. Mais faut pas non plus que ça soit trop difficile pour pas qu'il y ait démotivation. Donc, c'est pour ça que c'est adapté, que c'est ciblé. Et que c'est surtout construit pour que tout le monde puisse répondre à la tâche en fonction de son besoin.
D'accord. Et tes groupes, ils sont de combien à peu près?
En général, au grand max, on tourne à 8.
8?
Oui. Et ça, c'est vraiment le grand max. La moyenne, je dirais 4-5.
Ouais. Et tu es tout seul à gérer.
Tout à fait, oui.
Et tu m'as parlé que tu fais des scotchs cognitifs. Tu peux nous en parler de ça?
Sur l'aspect cognitif?
Ouais.
C'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, parce que quand on dit coach sportif ou autre, on pense vraiment à l'aspect physique.
Ouais.
Alors ok, c'est très bien, mais c'est pas ce qui nous fait comprendre les événements. L'aspect cognitif, il est essentiel parce que c'est ce qui permet de relier le corps à l'extérieur.
Ouais.
Et c'est ce qui permet d'agir sur les événements. Donc... c'est pour ça que c'est important et intéressant, c'est être en mesure. Je prends souvent cet exemple-là, mais je marche dans la rue. Typique aujourd'hui, maintenant, je suis concentré sur mon téléphone. Ben, je dois être en mesure d'entendre une voiture qui arrive. Donc, c'est travailler là-dessus pour être en mesure de réagir sur son environnement en fonction de ça.
D'accord.
Donc, moi, on leur fait travailler, mais que ce soit les personnes en situation de handicap ou les personnes lambda,
Oui.
je les fais travailler dans ce sens-là. N'importe quelle personne qui vient ou autre va travailler en double tâche, va travailler même en triple, parfois pour les plus aguerris,
Ouais.
dans toujours cet objectif de stimuler et de rendre utile la construction du corps à l'environnement qui l'entoure.
D'accord. Du coup, c'est plutôt sur les personnes qui sont malentendantes ou qui
Tout
ont,
type de personne, parce que ça, pour le coup, ce qui est
voire des
génial.
personnes qui ont fait des AVC.
Tout à fait, bah, c'est ce qu'on rencontre aussi comme type de population là où j'interviens, hein, des personnes qui ont à la suite d'AVC ou même à la suite d'arrêt cardiaque,
Oui.
avec bien évidemment du coup des séquelles qui
Mmh.
peuvent aller de la parole à la trouble de la marche ou de l'équilibre. Hein. Ces personnes-là, ce qui va leur être utile, c'est d'agir sur cet environnement-là, c'est d'être en mesure de se rééquilibrer sur pas forcément une chute, parce qu'une chute c'est la déséquilibre par excellence, mais d'être en mesure de prévenir cette chute-là en réapprenant ou en tout cas en améliorant cette faculté d'équilibre. C'est là la distinguo qu'il faut faire en mine de rien entre le kiné ou l'ergothérapeute ou ce que moi je peux apporter, c'est que moi je suis vraiment à la dernière échelle de cet échelon-là,
Mmh.
et c'est que c'est vraiment optimiser ce qui a été fait en amont. C'est pour ça que je suis incapable de réapprendre à quelqu'un à marcher, mais par contre, je suis en mesure, une fois qu'il a réappris à marcher, d'optimiser sa marche et d'optimiser son action dans l'environnement. Et c'est des choses qui sont difficiles, même pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. D'ailleurs, quand on commence à demander un jeu d'équilibre et en même temps de répondre à des calculs et en même temps de soutenir de la couleur de il y a deux tours, là, ça commence à être rigolo et en général, tout le monde est sur le même pied d'égalité là.
Oui.
Ça qui est génial avec le cerveau, c'est qu'une fois qu'on travaille avec lui, tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Et pour mettre comme Sébastien en confiance, comment tu peux, parce que Sébastien, le problème, il est vite.
Beaucoup de communication. Je veux dire, faut qu'on communique énormément. Chose que Sébastien sait faire très bien.
Ouais.
Beaucoup de communication, d'échanges, de balance l'eau, ça a été, pas été. Ce qui permet en fait de dire, bah, là, ça a été trop difficile. Là, j'ai vraiment pas réussi. Ok, bon, bah, si t'as pas réussi, on va adapter. C'est pas un mal en soi. Il y a des séances qui sont mieux réussies que d'autres, d'autres qui sont bah, à oublier, mais ça fait partie du travail. Pour continuer à avoir cette motivation, à avoir cet engouement-là, faut toujours amener, et ça revient à l'essence même, hein, ce qu'on disait depuis le début, le plaisir en fait. Si la personne prend un minimum de plaisir, si même dans l'échec, il y a eu de l'apprentissage, bah en fait, il n'y aura jamais de démotivation parce qu'il y aura toujours quelque chose par la suite. Dès que c'est mis un peu en challenge et que c'est un challenge équitable, bah, nécessairement la personne sera motivée, même si elle échoue, même si c'est difficile. Après, c'est là où c'est intéressant, c'est que même au sein d'une séance, je peux l'écrire comme je le pense. Ah, je vais arriver le jour J, il faut tout changer.
Oui,
Parce que je me rends compte que ça ne marche pas du tout.
parce que tout à l'heure on a évoqué avec Sébastien pour avec un gros ballon que passe
Oui.
à ses collègues,
Oui, tout à fait.
ça va, c'est.
C'est réalisable, mais on adapte. À exemple, il y a des personnes qui vont pouvoir se lancer entre elles. Et pour que Sébastien puisse travailler, bah, on va lui mettre dans la main. Mais
D'accord.
à contrario, il va peut-être devoir se baisser plus pour ramasser la balle pour contrebalancer la difficulté. En tout cas, son exercice à lui sera différent des quatre autres personnes présentes pour que la difficulté soit équivalente.
D'accord.
Parce que la difficulté qu'a lui, d'autres ne l'ont pas, et vice-versa. Donc, ouais, la grosse balle dont il parle, qui est souvent une balle qu'on appelle, un grand mot, enfin, c'est un mot anglais, mais c'est une wall ball pour balle de mur, qui sont en général 4, 9, 12 ou 15 kilos. C'est des balles qui permettent ouais, de s'échanger, de travailler là-dessus et d'avoir une perception. Parce qu'en plus, c'est des balles qui sont très visuelles, très flashy, assez grosses et prééminentes, ce qui permet d'avoir quand même une bonne saisie et de travailler correctement. Et donc, du coup, de niveler les différents niveaux.
D'accord. Et ton public hors ou que Sébastien ait fait, tu sais quel public? Plutôt, on t'appelle parce qu'on a fait, ils ont fait un AVC, ils ont besoin de réapprendre.
On m'appelle rarement pour ça. C'est souvent les associations qui m'ont directement contacté pour ce type de besoin-là.
D'accord.
Ça a dû arriver une ou deux fois grand maximum qu'une personne d'elle-même vienne m'appeler pour dire, bah voilà, j'ai eu un AVC il y a X années, je suis en protocole kiné, ergo. La totale à la suite de ça, voilà, maintenant j'ai besoin de plus pour pouvoir être épanoui ou pour pouvoir faire de l'activité physique. C'est arrivé une ou deux fois. Maintenant, les personnes qui appellent, c'est souvent dans cette culture actuelle du corps, du bien-être, où elles ont besoin de ça, même si on essaye d'aller chercher au-delà de ça, parce que c'est la facilité, on veut être machin, plus beau, plus machin. Non, on va apprendre aussi à se fixer des objectifs, à y répondre, à atteindre, à être capable de monter des escaliers sans être essoufflé, à être capable de faire ce genre de choses, qui sont déjà des grandes étapes et qui sont essentielles pour les populations qui viennent me voir. C'est souvent le genre de choses que je rencontre. C'est pas forcément les AVC en premier temps, mais c'est souvent je veux perdre du poids. Oui,
D'accord.
d'accord, très bien. Dans quel but, pourquoi, où ça?
Parce que c'est bientôt l'été et on veut rentrer dans le maillot
Ouais, voilà, c'est maraudit, c'est
de
ça, ouais, on aime bien ça. Ouais.
Et pour te contacter, on...
On peut m'appeler, mes réseaux sociaux sont pas encore assez développés parce que je suis encore en double travail.
D'accord.
Donc on peut m'y trouver, mais on ne trouvera pas grand-chose à l'heure actuelle. Donc on m'appelle, on cherche sur la barre de Google mon entreprise qui est Team Unit,
Ouais.
terme anglo-saxon, et on me retrouve facilement. Coach sportif sur Vierzon, on me retrouve directement aussi sur Google.
D'accord.
Et voilà à l'heure actuelle comment on peut me joindre.
Est-ce qu'on a le droit de donner un numéro de
Ah,
téléphone
mais on peut.
ou un mail?
Un numéro de téléphone, c'est plus facile pour moi. Les mails, j'y répondrai jamais.
Bah, ton numéro de téléphone.
Alors, du coup, c'est le 06 87 65 98 59.
Merci Lancelot
Merci à toi.
et à bientôt.
Avec plaisir.
Merci.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village.
toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page, on est les oubliés.
Sébastien, nous allons parler de tes astuces. Tout à l'heure, on a parlé de la pièce de 1 euro et 2 euros. Tu peux nous expliquer comment on la reconnaît ?
Bien sûr. Alors, pour reconnaître les pièces de 1 et 2 euros, il faut gratter les tranches des pièces avec son ongle. Donc, la pièce de 1 euro est représentée par une lime à ongle, une partie lisse et à nouveau une lime à ongle. Et la pièce de 2 euros, ça fait une partie lime à ongle tout le tour de la pièce. Il n'y a pas la partie lisse. Ce qui nous permet donc de faire la différence entre la pièce de 1 et 2 euros et de les reconnaître de cette façon.
Et Sébastien, la fois prochaine, tu vas nous expliquer comment remplir un chèque et te servir de ta carte bancaire.
Bien sûr.
Voilà. Et là, on va parler pour te déplacer d'un point A à un point B. Comment tu peux expliquer ?
Alors, pour me déplacer d'un point A à un point B, il faut d'abord que les auditeurs sachent qu'avant, j'avais la vue. Donc, je connais bien le centre-ville de Vierzon et j'ai donc des images du centre-ville de Vierzon dans la tête. Donc, je sais où je me trouve et je sais où je veux aller. Donc, ça fait un petit peu comme si j'étais le petit point qui se déplace sur une carte d'un GPS. Donc, je compte mes pas entre chaque repère que je vais découvrir avec ma canne ou sous mes pieds pour savoir du point où je pars, quand je vais tourner, pour avoir le nombre de pas exact pour quand je vais faire demi-tour. Et du coup, je m'imagine dans ma tête, alors je suis là, je vais à tel endroit, donc je traverse telle route, encore telle route, ah, là je prends à gauche, enfin, j'arrive à me déplacer comme si je regardais une carte.
Et pour apprendre à te déplacer, tu as été dans une école?
Oui, j'étais dans une école à Clermont-Ferrand qui s'appelle le CRDV, qui veut dire Centre Rééducation Déficient Visuel, où moi donc appris à utiliser une carte, à repérer les passages piétons qui sont maintenant qui sont un peu granuleux devant le, enfin les passages piétons commencent sur le trottoir avec une partie un peu granuleuse pour qu'on puisse les repérer avec notre canne ou sous nos pieds, apprendre à me déplacer, à mémoriser mes trajets.
Et t'es resté combien de temps dans ce centre pour apprendre tout ça?
14 mois.
C'était intense.
C'est difficile parce qu'il faut être bien concentré, mais on apprend plein de choses. Il faut aussi une certaine logique par rapport à tout ce qu'on doit faire. Il faut rester logique, on fait un peu de mathématiques. On apprend aussi le clavier informatique. On nous apprend plein de choses.
Ben merci Sébastien. Une petite musique.
Avec plaisir.
Que voient vraiment les aveugles? La plupart des gens s'imaginent que les aveugles vivent dans l'obscurité la plus totale. Mais le tableau n'est pas aussi noir que cela. Il existe différentes causes de cécité qui entraînent différents degrés de vision chez les aveugles. Aveugles de naissance. Les aveugles de naissance n'ont jamais eu la capacité de voir. Ce ne sont pas vraiment nos yeux qui voient l'information, mais le cerveau qui la traite. Donc, si le cerveau ne reçoit pas de signal de la part des yeux, la personne ne peut pas voir. Mais elle ne vit pas dans l'obscurité totale, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent. Pour avoir une idée de ce que cela représente, essaie de fermer un œil et de regarder autour de toi avec l'autre. L'œil fermé ne voit rien. Une autre façon de le comprendre est de répondre à cette question. Que peux-tu voir avec ton coude? La réponse n'est pas l'obscurité, mais le néant. Personnes qui ont perdu la vue. Devenir totalement aveugle, c'est-à-dire perdre complètement la perception de la lumière, est extrêmement rare. Cela arrive à ceux qui perdent la connexion entre les yeux et le cerveau, lorsque le cerveau ou le nerf optique sont endommagés ou lorsque l'on perd un œil. Les individus qui perdent la vue déclarent avoir l'impression de se retrouver dans une grotte totalement obscure. Certains individus qui sont nés voyants mais qui ont perdu la vue plus tard peuvent expérimenter le syndrome de Charles Bonnet ou CBS. Il s'agit d'une espèce d'hallucination visuelle où la personne voit des étincelles de différentes formes et couleurs ou des flashs de lumière vive. Elles peuvent durer plus ou moins longtemps. les individus souffrant de CBS n'ont pas de troubles mentaux et ils comprennent très bien que ce qu'ils voient n'est pas réel, mais cela est seulement dû à un dérèglement de leur cerveau. Lorsque l'on pense à la cécité, on imagine la cécité totale, mais il existe aussi un phénomène appelé cécité fonctionnelle. Il a une signification différente selon les pays. Aux États-Unis, une vision normale est de 20 sur 20. Et plus le deuxième nombre est élevé, moins la vision est bonne. Un individu avec une vision de 20 sur 200 est considéré comme souffrant de cécité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut voir à une distance de 20 pieds, ce qu'une personne normale peut voir à une distance de 200 pieds. Cela peut aussi signifier qu'elle a un champ de vision de 20 degrés au moins, alors que la norme se situe entre 60 et 100 degrés. Il existe différents types de cécité fonctionnelle avec des degrés variables. Malvoyant. Un individu malvoyant peut percevoir des formes et des objets, mais de façon floue. Il peut percevoir les couleurs ou distinguer des objets seulement à une certaine distance, parfois seulement juste devant ses yeux. Dans certains cas, tout ce qu'il voit est flou et voilé. Certains individus perçoivent des taches de couleurs mouvantes et qui changent de couleur. Les individus malvoyants les décrivent comme très rapides, allant du marron au turquoise avec des particules jaunes ou vertes pendant quelques secondes. Capacité à percevoir la lumière. Continuer à percevoir la lumière n'aide pas les aveugles à voir clairement, mais cela les aide à distinguer entre la lumière et l'obscurité ou entre le jour et la nuit. Certains d'entre eux arrivent même à savoir d'où vient la lumière. Vision en tunnel. Les individus atteints d'une vision en tunnel voient le monde comme à travers un cylindre étroit, d'où le nom de ce trouble. Ils peuvent voir les choses de façon distincte, mais avec un champ de vision restreint à 10 degrés. Ils n'ont pas de vision périphérique. Ce trouble est souvent causé par une lésion du nerf optique. Ne rien voir ou voir des taches de lumière, voilà ce qu'expérimentent les aveugles pendant la journée. Mais que se passe-t-il la nuit lorsqu'ils dorment? En d'autres termes, les aveugles rêvent-ils? Les aveugles voient-ils des images dans leurs rêves? Encore une fois, la situation est différente pour les aveugles de naissance et ceux qui ont perdu la vue. Les individus qui ont toujours été aveugles rêvent avec leurs autres sens. Ils peuvent ressentir des odeurs, des sons, des goûts et des sensations. Ils peuvent se sentir heureux ou effrayés. Mais des images, non, ils ne voient rien dans leurs rêves. En revanche, une personne qui a perdu la vue peut faire des rêves comme une personne normale avec des images nettes et précises. Les malvoyants peuvent aussi voir des images quand ils dorment. L'état de santé d'un individu et son historique de vision influent sur ce dont il rêve. Un individu daltonien, par exemple, ne pourra pas davantage distinguer certaines couleurs dans ses rêves. Une personne dont la vue s'est détériorée pourra voir des images nettes et précises comme avant ou floues comme aujourd'hui. Les gens qui portent des lunettes ou des lentilles peuvent rêver de façon plus ou moins nette. Et ceux qui souffrent du syndrome de Charles Bonnet pendant la journée peuvent aussi en souffrir la nuit. Dans ce cas, ils verront des flashs de lumière même en dormant. Des scientifiques de l'Université de Copenhague ont tenté de découvrir ce que voient les aveugles dans leurs rêves. Il se trouve qu'environ 25% de leurs rêves sont des cauchemars. Ils en font 4 fois plus que les personnes normales. Utilisez ces autres sens. Une autre question populaire à propos des aveugles est de savoir si leurs autres sens se développent. Les chercheurs pensent que oui. Les aveugles se souviennent de l'odeur des choses et utilisent souvent l'ouïe et le toucher pour se repérer. Ils perçoivent le monde en utilisant leurs autres sens et stockent l'information ainsi acquise pour leur orientation future. Toute personne qui a tâtonné dans le noir pour trouver son chemin ou un interrupteur peut comprendre cette technique. Percevoir la lumière de façon non visuelle. Comme nous l'avons déjà mentionné, la perte totale de la perception de la lumière est très rare, mais elle peut arriver. De même qu'il est possible pour un aveugle d'avoir sa propre perception de la lumière. En 1923, l'étudiant de Harvard, Clyde Keeler, a effectué une recherche sur des souris aveugles. Même si leurs yeux étaient dépourvus de certains éléments nécessaires à la vision, elles avaient tout de même un rythme circadien. Leurs pupilles réagissaient même à la lumière. Les scientifiques ont repris ces recherches 80 ans plus tard et ont découvert que les humains, comme les souris, ont des cellules photosensitives spéciales non pas sur la rétine, mais au niveau des nerfs qui envoient des signaux au cerveau. Ces cellules ne participent pas au processus de la vision, mais elles aident à distinguer la lumière de l'obscurité. Si tu as d'autres connaissances sur le sujet, partage-les dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo t'a fait apprendre de nouvelles choses, clique sur le bouton « J'aime ». Si elle récolte 50 000 j'aime, nous partagerons d'autres faits intéressants sur le corps humain. Abonne-toi à notre chaîne afin de ne pas manquer nos nouveautés et prends la vie du côté sympa.
De ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées, certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine. Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
Ben merci Sébastien, parce que tu m'as fait plaisir quand même de passer la chanson « Money Money » de Dalida. On va parler de cuisine. Allez, tu nous donnes ta petite recette de cuisine, s'il te plaît.
J'ai une petite recette pour faire une assiette d'entrée qui est très belle à regarder et surtout très light au niveau calorique. Alors pour ça, je fais donc une crème qui remplace la mayonnaise. Pour faire cette crème, donc je fais cuire 2 œufs durs. Je prends un bol où je mets 4 cuillères à soupe de fromage blanc 0% dans mon bol. Quand mes œufs durs sont prêts, je prends le jaune que j'émiette dans mon fromage blanc et je rajoute entre 2 et 4 cuillères à café de moutarde. 2 cuillères à café, c'est une moutarde qui est forte et qui est neuve. Et 4, c'est une moutarde qui est plus légère et ouverte depuis plus longtemps. Il ne faut pas que ce soit trop fort, c'est juste pour remplacer la mayonnaise. Après, donc, dans mon assiette, je prends donc une belle assiette ronde où je mets 2 feuilles de salade en V en haut de l'assiette avec une petite tomate cerise coupée entre les 2 feuilles de salade. En dessous, je mets 2 cuillères à soupe de macédoine. En dessous de ma macédoine, je mets donc des petits dés de jambon, du surimi que je coupe en dés, des grains de maïs pour ajouter un peu de couleur, quelques fils de soja et je coupe le blanc de mes œufs durs que j'ai pas utilisé en petits morceaux. Et dans le bas de mon assiette, je fais un grand sourire avec ma crème. Ce qui fait donc une assiette qui est pleine de couleurs et qui est très bonne à manger, qui est très agréable à manger et peu calorique.
Et du coup, ta crème, tu la fais comment ?
Alors, je fais donc cuire 2 œufs durs. Donc, je prends un bol où je mets 4 cuillères à soupe de fromage blanc 0%. Quand mes œufs durs sont prêts, je prends le jaune des œufs durs que j'émiette dans mon fromage blanc et je rajoute entre 2 et 4 cuillères à café de moutarde. 2 cuillères, c'est une moutarde qui est neuve et qui est forte, et 4, c'est une moutarde qui est un peu plus légère et ouverte depuis plus longtemps.
Bah, du coup, Sébastien, on est bon. 5 fruits et légumes. On est bien.
C'est parfait.
Et moi, je vais te donner une petite astuce sur le romarin.
Avec plaisir.
Voilà. Et on fait une petite musique.
Avec plaisir. Allez, on passe une petite chanson de Gauvin Serre.
Bah vas-y, c'est parti.
Allez.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. La petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Le romarin sert aux bienfaits médicinaux, améliorer la mémoire et la contraction, réduire le stress et améliorer la mémoire, favoriser une bonne circulation sanguine et l'utilisation infusée en tisane ou en préparation en huile de soin.
Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va vous parler du romarin et on va en parler avec Pierre Joyot. Pierre Joyot, vous êtes co-auteur de La Nouvelle Révolution Alimentaire. Alors, ce romarin, il égaye nos plats, hein, c'est des herbes provençales. Il a l'avantage de, d'être local, mais est-ce qu'il est bon pour la santé ?
Le romarin est très intéressant pour la santé grâce à son pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire et détoxifiant pour l'organisme. Il peut être ajouté effectivement dans les plats mijotés, mais aussi dans les marinades. Par exemple, il peut être consommé en infusion, en thé, sans aucun souci.
Voilà, on le retrouve dans les plats, dans les infusions. Malgré tout, faut pas en abuser quand même du romarin.
Alors, il ne faut pas en abuser, il ne faut abuser de rien, les aliments ne sont pas des médicaments. Il est très intéressant par rapport à tout ce que je viens de citer, son pouvoir anti-inflammatoire et détoxifiant, mais il n'y a pas que le romarin. Nos plats doivent être épicés et doivent être assaisonnés avec des herbes aussi. Et il y a le romarin, mais il y a aussi le basilic, le thym, le laurier, la ciboulette, pourquoi pas. Ce qui compte, c'est la diversité.
Voilà, la diversité. Le romarin, par contre, il a des vertus détox.
Exactement. Il a été montré que le romarin permettait notamment au foie de mieux détoxifier. Le foie, c'est l'usine de détoxication. Toutes les toxines passent par le foie. Et le romarin aurait un atout positif, serait un atout positif justement pour permettre au foie de bien détoxifier.
Donnez-nous deux, trois trucs. Alors, on peut l'utiliser comme en marinade, c'est bon le romarin.
En marinade, c'est très bien. Petite astuce pour le barbecue, on sait qu'on favorise les cuissons haute température et que ces cuissons haute température favorisent l'apparition de certaines molécules toxiques. Une marinade à l'huile d'olive, sel, poivre et romarin permettrait, grâce au pouvoir antioxydant, de diminuer la fabrication de ces molécules toxiques.
Voilà, donc pour se résumer, toutes les herbes aromatiques sont à utiliser pour varier l'alimentation. Le romarin, lui, a des vertus
anti-inflammatoires et antioxydantes.
Voilà, pour la recette du romarin, ça te convient, Sébastien ?
Ah, très bien. Au contraire, comme ça, j'en utiliserai plus souvent pour me sentir mieux, plus calme et plus zen, et aller plus de l'avant en restant
Et bien. Du coup, pour les prochaines astuces, je t'en redonnerai d'autres, j'en ai tout plein.
Avec plaisir.
Sébastien, tu as parlé de ta partie handicap et pour moi, je vais te parler de ma partie santé. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Sébastien ?
Nous allons parler du diabète.
Du coup, tu as du diabète, Sébastien ?
Oui, moi j'ai un diabète de type 2 dû aux médicaments que je prends.
Et tu te soignes comment ?
Alors, je me soigne avec un stylo qui a un nombre de cran où j'ai juste une petite aiguille et je m'injecte donc un produit qui remplace l'insuline. Une fois par semaine.
Voilà. Sébastien, moi je vais te parler. Qu'est-ce que le diabète sur le type 1, sur le type 2 ? Comment définit-on le diabète ? Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang.
Le diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Il en existe deux grands types. Le type 1, dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul remède aujourd'hui disponible, l'injection quotidienne d'insuline. Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et à un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette affection endommage les tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent. Des lésions de micro-vaisseaux dans la rétine peuvent rendre aveugle. Le système nerveux souffre également avec des symptômes variés pouvant conduire à des amputations de membres. Il est possible de prévenir le diabète de type 2 avec une vie saine. Surveiller son poids, faire de l'exercice physique, ne pas fumer, manger équilibré, en particulier réduire l'apport de sucre et de graisse saturée. Il représente 90% des cas de diabète, c'est donc une véritable épidémie liée au mode de vie moderne.
Radio Tintouin,
la radio qui fait du bien.
Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, protides et glucides. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passent dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta de celui-ci, regroupées en amas, appelées îlots de Langerhans, sécrètent de l'insuline. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, des tissus adipeux, ainsi que dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal, et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Par un dosage de la glycémie pratiqué en laboratoire, un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre à deux reprises ou à n'importe quel moment de la journée, égale ou supérieure à 2 g par litre. Oui, on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2, qui en touche 85%, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Anciennement appelé diabète insulino-dépendant et habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, les symptômes sont soif intense, urine abondante, amaigrissement rapide. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta du pancréas et les détruit. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans celui-ci s'élève. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langerhans se produit chez certains et pas chez d'autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues. L'environnement pourrait avoir également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline, l'unique traitement actuel est l'apport de celle-ci, soit sous forme d'injection, avec une seringue ou un stylo, soit avec une pompe, appareil portable ou implantable, destinée à administrer l'insuline en continu. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non-insulino-dépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie. Soit l'insuline agit mal, et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie, et cette résistance épuise progressivement le pancréas, qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis, on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Le but du traitement dans les deux diabètes est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète, qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires et une activité physique, prendre régulièrement ses médicaments. Un diabétique peut donc être un malade en bonne santé. Oui à la qualité de vie.
Sébastien, tu comprends mieux sur le diabète ?
Oui, je te remercie Pascal, maintenant je comprends mieux et je pourrai donc mieux avancer et mieux combattre mon diabète grâce à tes explications.
L'émission Si on en parlait, c'est déjà fini. Sébastien, tu peux redire comme en début d'émission, quand on peut nous écouter ?
Alors, on peut nous écouter donc tous les premiers mardis du mois à midi, tous les derniers vendredis du mois à midi, donc sur Radio Tintouin 101.8 ou sur radiotintouin.org.
Merci Sébastien et à bientôt.
Merci Pascal et à bientôt. Au revoir aux auditeurs et à bientôt aussi.
Bonsoir.